Turning now to the book of Ecclesiastes, chapter 7 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1. Et si vous ne savez pas où trouver ce livre, vous allez au milieu de votre Bible, le livre des psaumes, et vous continuez les proverbes, puis Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 1. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Et j'aimerais passer un peu de temps ce soir à réfléchir, à méditer sur des faits surprenants qui amènent à la conversion. Le problème de l'humanité, c'est que nos valeurs sont complètement sens dessus-dessous et nous avons un sens de la vie qui n'est pas juste. Nous sommes complètement confus par rapport à ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est désirable et ce que nous ne désirons pas. Ce sont là des paroles de Salomon. Nous avons considéré le chapitre 8 il y a quelques semaines et je me suis dit que je pouvais retourner au chapitre 7 et voir la grande sagesse de Salomon dans ses paroles ce soir. Salomon, le fils du roi David, qui était un rebelle contre Dieu pendant la plupart de sa vie, mais il est revenu au Seigneur. Et il a trouvé que tous ses efforts dans ses propres chemins pour trouver le bonheur par les désirs, les plaisirs, les richesses, par les inventions, les technologies, la science, il était un expert dans ces choses, par la zoologie, la philosophie, l'amour, il avait beaucoup de femmes, également par la littérature, la poésie, la connaissance, il a tout essayé, il a essayé de trouver la satisfaction dans la vie, dans ces choses, pour son âme, pour sa vie, mais vous connaissez ces paroles bien connu, vanité des vanités, tout est vanité, vanité dans le sens de futilité, de ce terme vide en hébreu. Tout est vide, tout est futile et vain sans Dieu. Et c'est là la conclusion du roi Salomon. Et plus tard dans sa vie, il est revenu au Seigneur de sa jeunesse, le Dieu de sa jeunesse, un homme d'une grande sagesse, mais qui a fui loin de Dieu pendant des décennies et il est revenu au Seigneur. Et ce livre de l'Ecclésiaste, cela signifie le prédicateur ou celui qui rassemble les gens pour leur prêcher. Ou cela pourrait signifier également celui à qui l'on a prêché ou celui qu'on a ramené. Parce que c'était là son cas, quelqu'un qui a été ramené au Seigneur avec succès et que le Seigneur a restauré. Et il écrit ce livre principalement comme un raisonnement qui est écrit de la manière la plus profonde et merveilleuse dans des paraboles miniatures. Parce que c'est là ce que ce sont ces proverbes, des paraboles miniatures. Ainsi, vous ne prenez pas ces choses littéralement. Ces commentaires, ces choses profondes, vous ne prenez pas simplement la signification superficielle. Et il nous dit ceci, que le but principal, le but de l'homme, c'est de connaître Dieu, de lui obéir, de l'avoir lui comme votre Dieu. Et c'est là le sens de ce livre, ces paraboles profondes. Et j'aimerais parler de certaines de ces paraboles fascinantes qui sont très directes et qui sont un défi pour nous. Le verset 1 au chapitre 7 qui parle à nos âmes. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Nous nous attendons pas à cette déclaration. Une bonne réputation, être important, noble, oui. Mais le bon parfum est là pour embaumer un corps, quelqu'un qui est décédé. Il vaut mieux décéder avec une bonne réputation qu'avec un enterrement riche et pompeux. Dans ces jours-là, si vous aviez l'argent, que vous étiez une personne noble, royale, et même parmi les Israélites, vous pouviez être embaumé. Ceci se passait en 900 ou 1000 avant Jésus-Christ et à la manière des Égyptiens, non pas exactement la même pratique, mais pour les imiter, ils prenaient des bandages, du fin lin, et ils étaient embaumés avec des parfums, des huiles aromatiques. Et ces bandages étaient là pour enrober le corps, pour le préserver pendant un certain temps, non pas indéfiniment, et pour empêcher l'odeur de décomposition également. Et ainsi, ce corps pouvait être traité d'une manière royale pour que les gens puissent voir la personne décédée pendant plus longtemps pour établir l'importance de la personne. Ainsi, c'est un enterrement riche. Quelqu'un avait beaucoup d'argent, était important dans la société. Ainsi, il peut se permettre l'enterrement le plus important et d'être embaumé. Ceci flatte, ceci rend important. Les gens visitent la personne décédée pour l'observer. Vous êtes quelqu'un d'important ? Et Salomon dit non, une bonne réputation est bien mieux que tout ceci. D'être quelqu'un qui était connu pour sa bonté, dont les gens peuvent se souvenir pour ses actes, pour son bon caractère, sa profondeur, sa stabilité. Cette personne qui avait de l'argent qui pourrait être embaumé, qui peut-être était une personne orgueilleuse, égoïste, qui peut-être a fait du mal à beaucoup de gens, qui n'était pas bon, mais il est bien mieux d'avoir une bonne réputation et de continuer dans la mémoire des gens pour la manière dans laquelle vous avez vécu. C'est là ce que veut dire ce verset. Mais vous devez voir le sens spirituel que Salomon veut nous donner ici, parce que dans ce livre, il parle de Dieu, de notre relation avec lui. Ceci n'est pas mentionné dans ce verset en particulier, mais ceci suit plus tard. C'est son raisonnement là pour nous. Il dit, voyez-vous, il est bien mieux d'avoir une bonne réputation avec Dieu, de pouvoir nous tenir devant lui, d'avoir cette relation avec lui. C'est bien mieux cette bonne réputation. Cette bonne réputation, ceci implique dans les proverbes que cette personne n'a pas de richesse. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Cette personne avec une bonne réputation n'avait pas le bon parfum. C'est là ce que ceci implique. Ceci est une image d'une personne qui a une bonne réputation et qui est connue de Dieu. Comment ceci se peut-il ? Parce que cette personne qui n'avait pas d'argent, pas de position dans la société, pas de célébrité, a ressenti son besoin de Dieu dans sa vie. Cette personne avait cette humilité en elle, donnée par le Saint-Esprit qui a œuvré dans le cœur. Cette personne a réalisé qu'elle ne peut pas se tenir devant Dieu et qu'elle a péché. Elle s'est repentie devant Dieu et elle a demandé son pardon, sa bénédiction. Et cette personne a trouvé le Seigneur et avait cette relation avec lui, le connaissait. Et ceci a enrichi leur vie. Et cette personne a étudié le Seigneur, l'a remercié, l'a honoré, marché avec lui, lui obéissait. C'est là cette personne qui a une bonne réputation. Cette bonne réputation devant Dieu, c'est là l'illustration qui amène à cette application spirituelle. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, qu'un enterrement plein de richesses. Parce que la personne qui connaît Dieu à cette vie nouvelle, cette relation avec Dieu qui vous transforme, qui vous donne la puissance contre le péché, ce sont des choses réelles. Certaines personnes disent, « Oh, quelle est la preuve que Dieu existe, chers amis ? » Il y a des preuves abondantes de l'existence de Dieu dans la création, dans l'explication de l'humanité, de sa condition, que vous trouvez dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui n'est donnée dans aucun autre livre. Comment est-ce que nous pouvons expliquer la composition de l'homme ? Voici l'homme, la femme, avec leur faculté de raisonner, bien au-dessus des animaux, complètement différents dans leur faculté, dans leur compréhension, dans leur intelligence, et avec une conscience morale et une connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et cependant, le grand mystère de la vie, cette connaissance du bien et du mal, et cependant l'homme est entièrement incapable de résister au péché et de maintenir une vie parfaite et sainte. Quelle est l'explication pour ceci ? Ce n'est nulle part, dans aucune littérature, dans aucun livre psychologique, dans aucune littérature humaine, mais uniquement dans la parole de Dieu. C'est la chute de l'homme. L'homme en rébellion contre Dieu, dans sa condition qui a chuté loin de Dieu, dans sa nature même, il est un pécheur. Il est loin, très loin de Dieu, séparé de lui. Et quand vous voyez ces choses, que vous venez à Dieu et qu'il vous pardonne, qu'il transforme votre vie, alors vous avez tant de preuves qui coulent dans votre vie de sa présence, de sa puissance, de ce qu'il a fait pour vous et comment il vous a remodelé en vous à l'intérieur, qu'il vous a restauré, qu'il vous a donné une grande capacité contre le péché, une puissance contre le péché. Ces choses sont extraordinaires, merveilleuses. Une bonne réputation avec Dieu vaut mieux que le bon parfum, qu'un enterrement d'une personne qui est embaumée. Et pas de place au ciel, pas de futur éternel. Et Salomon continue au verset 1, « Et le jour de la mort que le jour de la naissance. » Oh, qui pourrait penser ceci, le jour de la mort qui est meilleur que le jour de votre naissance? Comment est-ce que ceci se peut-il? La naissance d'un enfant, c'est une chose extraordinaire. Les bébés, les enfants sont un grand trésor et nous célébrons ces choses et l'enfant est accueilli dans ce monde par ses parents, par la parenté, par les amis et c'est une chose extraordinaire. Et en peu de temps, l'enfant grandit. Et avant que l'enfant ne peut devenir quelqu'un d'important, il doit d'abord devenir personne. Il doit être éduqué, enseigné, aller à l'école et l'enfant doit travailler, être employé ou peut-être au chômage, ceci est plus terrible. Il y aura des difficultés, il grandira, il y aura des temps de joie. Dieu a donné de grandes bénédictions à la race humaine, mais beaucoup de difficultés, de déceptions, d'épreuves, de craintes. Et alors, vous allez commencer à vieillir et alors votre corps va faiblir et le vieillissement commence. Et peut-être vous êtes l'une de ces personnes qui sera très malade ou qui aura des infirmités dans différents aspects et au final vous en arrivez à la fin du chemin et le jour de votre mort. Bien sûr, Salomon pense en termes spirituels. Si vous avez cette relation avec Dieu, ce qu'il dit est entièrement vrai. Peut-être qu'il y avait des bons moments dans votre vie, des moments de joie, peut-être que vous avez pu accomplir beaucoup de bonnes choses. Mais le jour de votre mort, quand le chemin sera fini, et maintenant le vrai moment de triomphe commence et votre âme arrive dans la présence de Dieu et vous en arrivez à ceci, alors nous ne pouvons que imaginer cette grande réception, ce repas de l'agneau, dans le ciel, quand vous arrivez dans l'éternité et vous arrivez là avec tous ceux qui vous ont précédés et vous voyez des choses extraordinaires, merveilleuses et toutes vos propres faiblesses, votre péché, vos imperfections, vos craintes, vos chagrins et vos péchés, tout ceci sera fini pour toujours et amené à une fin. Et maintenant, c'est une aventure éternelle avec le Seigneur, une aventure extraordinaire. Et vous êtes plein d'intelligence, de compréhension, vous connaissez toutes choses, chers amis. C'est pour cela que Salomon dit, en parlant spirituellement, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Bien sûr que oui, si vous connaissez le Seigneur, si vous connaissez Dieu, si vous êtes repenti de vos péchés, si vous êtes confié en Christ, qui est la deuxième personne de la Trinité glorieuse. Souvenez-vous, il y a un seul Dieu, et cependant, d'une manière mystérieuse, au-delà de ce que nous pouvons comprendre, il y a trois personnes distinctes dans la Trinité qui partagent cette essence divine, et la deuxième personne de la Trinité glorieuse est venue sur cette terre. Il a pris une personnalité humaine, un corps humain, pour nous représenter, pour aller à la croix du calvaire, et pour ôter les péchés de tous ceux qui iront au ciel, tous ceux qui seront pardonnés, sauvés. Il a pris leurs péchés pour que lui soit condamné à notre place. Avec ce tourment énorme de la condamnation de Dieu, concentré en l'espace de quelques heures, il a porté notre condamnation pour que nous puissions être libérés, pardonnés, pour nous donner la vie nouvelle, pour que nous puissions être ses enfants, pour que nous puissions entrer au ciel. Ces choses sont extraordinaires. Avant de venir à Dieu, nous pensons, « Oh, s'il y a un Dieu, alors nous devons mériter sa faveur. » Et dans notre voie insensée, nous pensons que nous pouvons mériter sa faveur, mais c'est impossible parce que nous avons péché et notre liste de péchés est si terrible contre le Dieu saint. Le salut doit être libre, gratuit. Le pardon, la vie nouvelle doit être libre, gratuite par Christ. En nous confiant en lui, c'est ainsi que nous obtenons le pardon. Et Salomon continue au verset 2. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car là est la fin de tout homme, et celui qui vit, ceux qui vivent, mettent cela dans leur cœur. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. » Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il vaut mieux aller à un enterrement, dit-il, que d'aller à une fête. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voudriez plutôt aller à un enterrement que d'aller à une fête? L'une des choses surprenantes qui peut peut-être amener à votre conversion, à votre salut, peut-être que ces choses vont vous faire réfléchir et vous deviendrez quelqu'un de sérieux qui est en souci pour votre âme et vous commencez à chercher le Seigneur. Et ceci va nous amener sur le bon chemin pour comprendre ces choses que nous avons toujours mis de côté, les choses de Dieu. Si vous allez à une fête, où ceci va vous amener dans un monde irréel. Peut-être vous allez rire et vous allez écouter des blagues les plus simples et ces choses seront merveilleuses pour vous parce que vous aurez bu. Et c'est une manière de s'enfuir de la réalité et c'est simplement des choses insensées et une fausse idée du plaisir. Si votre vie est ainsi, vous ne faites jamais face à la réalité, le fait que vous avez été créé par Dieu, que vous devez l'honorer, qu'un jour vous devrez lui rendre compte, que vous allez devoir vous présenter devant lui. Et vos fêtes ne considèrent pas ces choses, ne réfléchissent pas à ces choses. On pense que à 3h20 dans l'après-midi, le 12 octobre, en 529 avant Jésus-Christ, que Babylone a chuté. Babylone, la grande ville de l'Empire chaldéen, a chuté et tombé aux mains des Perses, du général Darius, sous le règne de Cyrus, des Mèdes et des Perses. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le roi Belshazzar faisait une grande fête. Il avait organisé cette grande fête avec des milliers de ces gens importants dans le gouvernement. Et il faisait la fête au moment même où les troupes ennemies sont rentrées dans la ville sans que personne puisse s'opposer à eux. Et c'est ce qui se passe pour nous. Peut-être votre vie est intéressante dans beaucoup d'aspects, avec des hauts et des bas. Et peut-être vous avez vécu dans différentes parties du monde. Peut-être vous avez été militaire à l'armée, ou peut-être vous avez accompli beaucoup de choses, vous avez été un universitaire important, peut-être vous avez accompli beaucoup de choses si on pouvait écrire votre biographie, mais cette chose tragique, c'est que vous n'avez pas trouvé le Seigneur, et vos péchés ne sont pas pardonnés, vous n'avez pas de place au ciel, parce que votre vie était simplement une grande fête, pleine de distractions. Ceci est tragique, chers amis, je dis ceci comme Salomon le fait, pour vous avertir, pour vous gagner, pour que vous puissiez réfléchir. Mieux vaut aller dans une maison de deuil, à un enterrement. Pourquoi? Parce que c'est là la fin de tout homme. Ceci vous fait réfléchir, et alors vous devenez quelqu'un de sérieux, de sincère, et vous êtes ouvert aux choses de Dieu, et ceci vous fait réaliser que les athées ont tort, que la vie, ce n'est pas simplement la vie terrestre, et alors tout l'univers un jour sera détruit en milliers de particules et ce sera la fin de tout, la fin de la science, de l'art, de l'émotion, la fin de toute la pensée humaine et tout est inutile, sans but, sans aucun sens, sans objectif dans la vie. Vous savez que ceci n'est pas vrai parce que l'instinct que Dieu vous a donné vous dit que ceci n'est pas vrai. Et ces explications rationnelles de la vie, de l'origine, ces choses sont opposées à Dieu. Mais vous savez que ces choses sont fausses, parce que si vous lisez la parole de Dieu, l'enterrement est la fin de tout homme, mais vous voulez voir au-delà le but de Dieu, le dessein de Dieu. Et celui qui vit met cela dans son cœur. Salomon continue au verset 3, « Mieux vaut la tristesse que le rire, car par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. » Le cœur devient joyeux. Quel est le problème du cœur? Oh, ce verset nous dit que vous avez un problème dans votre cœur, non pas un problème physique, mais un problème spirituel, émotionnel dans votre cœur. Dans votre vie, vous en êtes arrivé à un moment où, soudainement, vous avez réalisé la réalité. Vous n'aviez jamais ceci auparavant, peut-être vous êtes très jeune. Et même les jeunes ont ce sentiment par moments. Peut-être vous en êtes arrivé à un moment où, soudainement, tout semble n'avoir aucun sens. Rien de ce que vous faites n'est juste et vous êtes profondément insatisfait. Certaines personnes, peut-être, pensent mettre fin à leur vie. Et tout est vain, comme dit Salomon. Tout est futile. Vanité, vanité, tout est vanité. Quel est le but de la vie? Où est-ce que je vais? Et toutes ces choses vous dépriment à ce moment-là. Ainsi, votre cœur est découragé. Quel est le remède? Salomon dit, la tristesse est meilleure que le rire. Oui, parce que peut-être le rire peut vous encourager pour un moment, pour un peu de temps, et vous donner de la joie. Si quelqu'un a un sens de l'humour, un bon humour, si vous pouvez le trouver de nos jours, peut-être à la télévision, et ceci vous fait rire, ou vous êtes en bonne compagnie, ceci va vous encourager, oh oui, peut-être, mais ceci, c'est simplement pour boucher le trou ou un bandage sur une plaie qui est infectée. Ceci va durer peu de temps parce que vous devez faire face à la réalité. Quel est le sens de la vie? Pourquoi? Où est-ce que je vais? Pourquoi est-ce que je suis ici? Et le remède, que vous le croyez ou non, c'est la tristesse. L'hébreu ici ne dit pas tristesse. L'hébreu dit la colère. Et les traducteurs ont utilisé ce terme, la tristesse. Je ne sais pas quel est le meilleur terme. La tristesse ou la colère, c'est un peu des deux. C'est là ce dont nous avons besoin, d'être en colère avec nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je continue seul? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas tourné vers la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas tourné vers le Dieu Tout-Puissant qui m'a créé, le Sauveur qui veut me purifier, me transformer? Pourquoi est-ce que je suis si indépendant et plein d'athéisme et d'incrédulité? Pourquoi est-ce que je vis que pour ce monde, comme si ceci allait résoudre tous mes problèmes? Un peu de colère envers moi-même, d'être si dur, tellement contre le Dieu puissant, mais la tristesse est bonne parce que ainsi je vais réfléchir, je vais chercher le Seigneur et je vais chercher le sens de la vie. Quel est le sens spirituel de la vie? Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis ici? Quel est son but? La tristesse vaut mieux que le rire. Chers amis, réfléchissez, écoutez, ayez de la profondeur, écoutez le message du Sauveur qui est venu pour souffrir, pour mourir pour les pécheurs, qui est prêt à pardonner à ceux qui viennent à lui, qui œuvre dans les cœurs, qui change votre nature, qui transforme votre vie, qui ouvre votre cœur pour que vous puissiez comprendre sa parole et les choses spirituelles. Et il vous amène à cette communion avec lui et il vous donne la vie éternelle. Apprenez ces choses, chers amis, le vrai sens de la vie et de l'éternité. Mieux vaut la tristesse que le rire, car par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. Quand on réfléchit, quand on est ouvert à Dieu, qu'on le cherche, alors le cœur devient joyeux. Notre temps est presque passé et j'aimerais vous donner une autre chose. Verset 6, « Car tel qu'est le bruit des épines sous la chaudière, tel est le rire de l'insensé. » Nous aurions pu parler de cette image, mais en arrivant au verset 7, voyez ces paroles, c'est là Salomon qui veut nous persuadé de chercher le Seigneur. Certainement l'oppression peut faire perdre le sens aux sages et le présent corrompt le cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ceci est un argument de Salomon pour chercher le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Certainement l'oppression peut faire perdre le sens aux sages. Oh, notre version utilise ce terme « oppression » qui a changé un peu sa signification avec le temps. Au temps de nos traducteurs, la première signification de ce terme « oppression », c'était une pression importante. Dépendre de quelqu'un pour mettre la pression sur quelque chose, sur quelqu'un, c'est là ce que veut dire ce terme en hébreu. Certainement, la pression peut faire perdre le sens au sage, mais dans le sens actif et pas passif. Ma pression que je donne, cette pression peut faire perdre le sens au sage même. Cette personne qui devient insensée, c'est là la signification de ces choses. Et j'aimerais être concis, cette personne dont la politique dans la vie est militante. Vous êtes une personne qui pousse sur vous-même, non pas d'une mauvaise manière, mais vous dites, ma politique dans la vie, c'est de vivre la vie entièrement, pleinement, et de faire autant que je peux, d'explorer autant que je peux, de posséder autant que je peux, et de monter le plus haut possible. Ma politique pour le bonheur, pour la satisfaction, pour l'accomplissement, pour le succès, c'est de vivre tout pleinement, entièrement. C'est ce que cela signifie. L'oppression ou cette pression sur vous-même dans tout ce que nous faisons en investissant dans ce monde, en nous confiant dans ce monde, en espérant dans ce monde, en mettant toute mon énergie pour ces choses. Et ainsi, je n'ai pas de temps pour être déprimé, pour réfléchir, je n'ai pas de temps pour être triste, je n'ai pas de temps pour penser à ces choses. Mais Salomon dit, oh, ceci d'une certaine manière est impressionnant, mais il y a un problème en cela, un inconvénient, c'est que ceci vous rend insensé. Est-ce que nous voyons des gens qui vivent pour ces choses? Est-ce que ces personnes sont insensées? Ce qu'il veut dire par là, c'est que ceci vous empêche de réfléchir correctement parce que vous êtes obsédé par ces choses. Et j'ai parlé à des gens qui vivent ainsi d'année en année. Je me rappelle d'un homme qui était dans le gouvernement et nous avons parlé de son âme avec lui et il m'a dit « Oh, je suis amené à chercher le Seigneur et l'expérience spirituelle et cette transformation de ma vie. Ceci m'attire, ce message de l'Évangile. » Il l'a entendu, il l'a compris, mais il a dit « Je ne peux pas parce que j'ai encore trop de choses à accomplir, trop de choses que je peux gagner dans ce monde et ces choses que je ne peux pas perdre. » Ainsi, il ne pouvait pas réfléchir correctement parce que cette pression dans sa vie faisait qu'il était obsédé par ses objectifs. Il ne pouvait pas s'arrêter pour considérer l'état de son âme, pour chercher le sens de la vie. Il ne pouvait pas s'arrêter pour la conversion ou pour quoi que ce soit, parce que ces choses l'enveloppaient et il était comme possédé par ces choses. Vous allez pour la pression et vous vivez dans ces choses, mais ceci va vous empêcher de réfléchir correctement et toutes ces choses qui vont vous consumer et être importantes pour vous, ce sont vos objectifs et vous pouvez voir ces choses dans la vie, naturellement autour de vous. Les gens mettent toutes leurs ressources dans leurs affaires et alors tout va de travers dans leur famille. Ils sont divorcés, il y a des choses terribles qui se passent dans leur famille et ils sont malheureux parce que ces choses se sont mises en travers de leur vie. Vous devez considérer les choses de Dieu. Salomon a une autre illustration. Et le présent corrompt le cœur. Si vous êtes cet homme, cette personne qui est sous une pression avec cette politique dans votre vie, alors certaines choses qui sont importantes pour vous dans ce monde, que ce soit la richesse, l'autorité, la puissance ou ces expériences sensationnelles ou le péché, ces choses, chers amis, vous achète et vous ne pouvez plus vous séparer de ces choses. Vous ne pouvez plus chercher le Seigneur et vous avez été enveloppé par les attraits de ce monde. C'est comme si vous aviez été acheté par ces choses. Voyez-vous l'étendue du raisonnement de Salomon? Allez à l'enterrement plutôt que d'aller à cette fête et pensez à votre âme. Pensez à la miséricorde de Dieu, à Dieu qui a pourvu. Cherchez le pardon de Dieu pour vos péchés. Cherchez la vie nouvelle en Christ. Cherchez cette expérience extraordinaire de la conversion, cette nouvelle nature, le pardon de Dieu. Et le Seigneur qui va vous mettre sur le chemin vers le ciel, qui va vous garder vous protéger. Il va vous donner cette capacité de prier. Il va vous aider chaque jour de votre vie. Vous allez comprendre les desseins de Dieu, ses buts. Et vous allez comprendre le Seigneur et l'étudier. Ce sont des choses extraordinaires et merveilleuses, des choses suprêmes et si belles. Ne soyez pas distraits. N'essayez pas de trouver des choses alternatives dans votre vie. Et tout est là. Vous pouvez écouter la sagesse de Salomon. Et tout ce raisonnement qui nous parle. Et c'est là mon conseil pour vous ce soir, chers amis, pour l'amour de votre âme. Cherchez le Seigneur, cherchez son amour, son pardon, et réfléchissez à Dieu, désirez-le de tout votre cœur, et confiez-vous en Christ pour le salut. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce, nous te prions, et aide-nous. Et si nous avons été loin de toi dans nos pensées, si nous nous sommes contentés de choses superficielles, Seigneur, viens et parle à nos âmes, réveille-nous et aide-nous, Seigneur, nous te prions, et amène beaucoup à venir à toi, à réaliser leurs besoins de Christ, à réaliser tout ce qu'il a fait pour eux, et à se confier en lui, à le trouver. Seigneur, bénis-nous et œuvre en nous, œuvre dans nos cœurs, et nous te demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur. Pour sa gloire. Amen.